Germaine de Staël, Delphine, partie 2, lettres 31 à 37 comprises. Lettre 31. Delphine à Mademoiselle d'Albémar. Paris, ce 26 octobre. Louise, quelle lettre Léonce vient de m'écrire! Tout est révélé, tout est éclairci. Madame de Vernon, vous-même, vous n'auriez jamais pensé qu'elle pût en être capable. Elle a profité de tous les prétextes que lui fournissait ma confiance pour induire Léonce à croire que j'aimais Monsieur de Serbellane, que je l'avais revu chez moi pendant 24 heures et que je partais pour l'épouser. Juste ciel, vous croyez que c'est à moi que je pense et que je goûterai quelque joie en apprenant que Léonce m'aime encore? Non. Je ne sens qu'une douleur, je n'ai qu'une idée. C'est l'amitié trahie, l'amitié la plus tendre, la plus fidèle. On s'attend peut-être, sans se l'avouer, que le temps amènera des changements dans les sentiments passionnés. Mais tout l'avenir repose sur les affections qui s'entretiennent par la certitude et la confiance. Mon ami, si vous me trompiez, croyez-vous que je pusse supporter un tel malheur? Eh bien, j'aimais Madame de Vernon autant que vous. Peut-être plus encore. Je m'en accuse, je m'humilie. Mais son esprit séducteur avait un empire inconcevable sur moi. J'ai eu des moments de doute sur elle depuis le mariage de Léonce. Mais elle en avait triomphé, mais mon cœur lui était plus livré que jamais. Je suis troublée, tremblante, irritée, comme s'il s'agissait de Léonce. Ah, quand on a consacré tant de soins, tant de services, tant d'années à conquérir une amitié pour le reste de ses jours, quelle douleur on éprouve en considérant tout ce temps, tous ces efforts comme perdus. Loin de vous, qui trouverais-je jamais que j'ai aimé depuis mon enfance avec cette confiance, avec cette candeur? Une autre amie que j'aurais après Madame de Vernon, je la jugerais, je l'examinerais, je serais susceptible de crainte, de soupçon. Mais Sophie, je l'ai aimée dans une époque de ma vie où j'étais si tendre et si vraie. Je ne puis plus offrir à personne ce cœur qui se livrait sans réserve et dont elle a possédé les premières affections. J'aimerais si l'on m'aime. Je serais reconnaissante des marques d'intérêt que l'on pourra me donner. Mais cette tendresse vive, involontaire, que des agréments nouveaux pour moi m'avaient inspirée, je ne l'éprouverai plus. Je regrette Sophie et moi-même, car je ne vaudrais jamais pour personne ce que je valais pour elle. Se peut-il qu'elle ait pu accepter tant de preuves d'amitié si elle ne sentait pas qu'elle m'aimait pour la vie? De tous les vices humains, l'ingratitude n'est-il pas le plus dur, celui qui suppose le plus de sécheresse dans l'âme, le plus d'oubli du passé, de ce temps qui ébranle si profondément les âmes sensibles? Et moi aussi, faut-il que je ne conserve plus aucune trace de ce passé qu'elle a trahi? Si je cède à mon cœur, si je confirme tous les soupçons de Léonce, ne vais-je pas l'irriter mortellement contre la mère de sa femme? Je connais sa véhémence, sa généreuse indignation. Il défendra à Mathilde de voir sa mère. Je ne veux pas perdre Madame de Vernon. Je le dois à mes souvenirs. Je veux respecter en elle l'amitié qu'elle m'avait inspirée. Cependant, rester coupable aux yeux de Léonce est un sacrifice au-dessus de mes forces. Que faire donc? Que devenir? J'écrirai à M. Barton. Je lui demanderai de se charger d'éclairer Léonce en modérant les effets de son premier mouvement. Et quoi? Je me refuserai au bonheur d'écrire cette simple ligne. Delphine n'a jamais aimé que Léonce. Il l'espère, Il l'attend. Ah, quelle affreuse perplexité! Je vais aller chez Madame de Vernon. Je lui parlerai. Je n'épargnerai pas son cœur s'il peut encore être ému. Vous saurez en finissant cette lettre ce qu'elle m'aura dit. Mais que peut-elle me dire? Je veux que, du moins une fois, elle entende les plaintes amères qu'elle ne pourra jamais se rappeler sans rougir. Minuit. Non, je ne conçois point ce qu'est devenue l'idée que je m'étais faite de Madame de Vernon. Je viens de passer 2 heures avec elle, sans avoir pu lui arracher un seul mot qui rappela en rien cette sensibilité naturelle et aimable que je lui ai trouvée tant de fois. Il semble que, dès qu'elle a vu son caractère dévoilé, elle ne s'est plus embarrassée de feindre. Et si elle s'était jamais montrée à moi comme aujourd'hui, mon cœur ne s'y serait point trompé. Après avoir reçu la lettre de Léonce, après m'être livrée en vous écrivant à toutes les impressions douces et cruelles qu'elle faisait naître en moi, j'allais chez Madame de Vernon. Je ne vous peindrai point avec quel serrement de cœur je faisais cette même route. J'entrais dans cette même maison que je croyais hier plus à moi que la mienne. Le spectacle des lieux, toujours invariable quand notre cœur est si songé, produit une impression amère et triste. Je m'arrêtai néanmoins dans l'antichambre de Madame de Vernon pour demander de ses nouvelles avant d'entrer chez elle. Je sentais que si elle avait été malade, je serais retournée chez moi. On me dit qu'elle se portait beaucoup mieux et qu'elle avait dormi jusqu'à midi. Alors je hâtai mes pas et j'ouvris brusquement sa porte. Elle était seule et vint à moi avec cet air d'empressement qui avait coutume de me charmer. J'en fus irritée et par un mouvement très vif, je jetai sur une table devant elle la lettre de Léonce, et je lui dis de la lire. Elle la prit, rougit d'abord d'une manière très marquée, mais prolongeant à dessein la lecture pour se remettre. Quand elle se sentit enfin tout à fait calme, elle me dit assez froidement « Vous êtes la maîtresse de semer la haine dans une famille unie. Mais vous auriez dû penser plus tôt qu'il était juste que je fisse tous les efforts qui dépendaient de moi pour bien marier ma fille et vous empêcher de lui enlever l'époux qui lui était promis. » « Grand Dieu, m'écriai-je, il était juste que vous abusassiez de mon amitié pour vous, de la confiance absolue qu'elle m'inspirait. » « Et vous, interrompit-elle, n'abusiez-vous pas de ce que je vous recevais tous les jours chez moi pour venir, dans ma maison même, ravir à ma fille l'affection de Léonce ?»« Vous ai-je rien caché, répondis-je avec chaleur, ne vous ai-je pas chargé vous-même d'expliquer ma conduite et mes sentiments à Léonce ?»« En vérité, interrompit Madame de Vernon, si vous me permettez de vous le dire, il fallait être trop naïf pour me choisir, moi, pour engager Léonce à vous épouser. » Trop naïve, répétai-je avec indignation, trop naïve. Est-ce vous, madame, qui parlez avec dérision des sentiments généreux? Ah, j'en atteste le ciel, dans ce moment où j'apprends que mon estime pour votre caractère a détruit tout le bonheur de ma vie, je jouis encore de vous avoir offert une dupe si facile. Je jouis avec orgueil d'avoir un esprit incapable de deviner la perfidie, et dont vous avez pu vous jouer comme d'un enfant. Léonce lui-même vous avoue, me répondit-elle, que ce n'est pas moi qui lui ai appris ce que l'on répandait dans le monde. Je me suis contentée de ne pas le nier. C'était bien le moins dans ma situation. Quant à tout l'esprit que fait Léonce à propos du prétendu pouvoir que j'ai exercé sur lui, c'est une excuse qu'il veut vous donner. On ne gouverne jamais une personne que dans le sens de son caractère. L'éclat de votre aventure lui déplaisait. L'imprudence de votre conduite, l'indépendance de vos opinions blessaient extrêmement sa manière de voir. Voilà tout. Non, repris-je vivement, ce n'est pas tout. Vous voulez, par des paroles légères, confondre le bien avec le mal et cacher vos actions dans le nuage de vos discours. Préparez pour le monde ces habiles moyens. Un cœur blessé ne peut s'y méprendre. Écoutez chaque mot de la lettre de Léonce. Comme je voulais la reprendre pour la relire, Madame de Vernon la retint et me dit négligemment. Ne voulez-vous pas occuper tout Paris de nos querelles de famille et montrer à vos amis cette lettre de Léonce ? En prononçant ces paroles, elle la jeta dans le feu. Cette action m'indigna. Mais plus mon impression était vive, plus je voulus la réprimer. Et je me levai pour sortir. Madame de Vernon reprit la parole assez vite. Elle recommença l'entretien, afin qu'il ne se terminât pas par l'action qu'elle venait de se permettre. « J'avais de l'amitié pour vous, me dit-elle, mais les intérêts de ma fille devaient m'être encore plus chers. »« Et quoi, répondis-je, ne les avais-je pas assurés, ces intérêts, lorsque je lui donnais la terre d'Andully, lorsque je vous ai préservé deux fois de la ruine ?» Delphine, interrompit Madame de Vernon, il n'y a rien de plus indélicat que de reprocher les services qu'on a rendus. Vous savez mieux que personne, madame, continuai-je froidement, combien j'attache peu de prix à ce que je puis faire pour les autres. Quand il m'est arrivé de rendre des services à ceux que je n'aimais pas, je n'en ai jamais gardé le moindre souvenir. Mais c'est avec confiance, avec tendresse, que je me suis vouée à vous être utile. Les preuves d'amitié que je vous ai données, c'est au sentiment que je croyais vous avoir inspiré qu'elles s'adressaient. Si vous n'aviez pas ces sentiments, pourquoi donc avez-vous disposé de moi? Pourquoi vous exposiez-vous au reproche le plus humiliant, le plus cruel, à celui de l'ingratitude? L'ingratitude, me dit Madame de Vernon, c'est un grand mot dont on abuse beaucoup. On se sert parce que l'on s'aime, et quand on ne s'aime plus, l'on est quitte. On ne fait rien dans la vie que par calcul ou par goût. Je ne vois pas ce que la reconnaissance peut avoir à faire dans l'un ou dans l'autre. Je ne daigne pas répondre, lui dis-je, à ce détestable sophisme. Mais vous n'aviez donc pas d'amitié pour moi, quand vous me montriez tant d'intérêt et d'affection? L'attachement que j'avais pour vous ne vous avait donc pas touché? Est-il donc vrai que, depuis 6 ans, nos conversations, nos lettres, notre intimité, tout fut mensonge de votre part? En me retraçant les années heureuses que j'ai passées avec vous, j'éprouve l'insupportable peine de ne pouvoir me flatter qu'il ait existé un temps où vous m'aimiez sincèrement. Quand donc avez-vous commencé à me tromper? Dites-le-moi, je vous en conjure, pour que du moins je puisse conserver quelques souvenirs doux de tous les jours qui ont précédé cette funeste époque. En parlant ainsi, j'étais inondée de larmes, et je souffrais extrêmement de n'avoir pu les retenir. Car Madame de Vernon me paraissait avoir conservé le plus grand sang-froid. Cependant, quand elle reprit la parole, sa voix était altérée. « Tout est fini entre nous, me dit-elle en se levant. Avec votre caractère, vous n'entendriez raison sur rien. Vous êtes trop exalté pour qu'on puisse vous faire comprendre le réel de la vie. Si je meurs de la maladie qui me menace, peut-être vous expliquerai-je ma conduite. Mais tant que je vivrai, il me convient de soutenir mon existence, ma manière d'être dans le monde telle qu'elle est. Je veux aussi éviter les émotions pénibles que votre présence et les scènes douloureuses qu'elle entraîne me causeraient. Il vaut donc mieux ne plus nous revoir. Vous le dirai-je, ma chère Louise, je frémis à ces derniers mots. J'étais bien décidée à ne plus être liée avec Madame de Vernon. Je sentais que je ne pouvais répéter des reproches de cette nature et qu'il me serait impossible de la revoir sans les renouveler. Mais je ne m'étais pas dit que ce jour finirait tout entre nous, et la rapidité de cette décision, quelque inévitable qu'elle fût, me faisait peur. « Quoi, lui dis-je, vous ne pouvez pas trouver quelques excuses qui puissent affaiblir mon ressentiment ?» « Le prestige de tout ce que j'étais pour vous est détruit, me dit Madame de Vernon. Je suis trop fière pour essayer de le faire renaître. »« Trop fière, m'écriai-je, vous qui avez pu me tromper ?»« Laissons ces reproches, reprit-elle impatiemment. Je vaux peut-être mieux que je ne parais. Mais quoi qu'il en soit, je ne veux pas m'entendre dire le mal que l'on peut penser de moi. » »« Vous êtes la maîtresse, ajouta-t-elle, de rendre les derniers jours de vie qui me restent horriblement malheureux, en révélant tout à Léonce. Vous pouvez user de cette puissance, je n'essaierai point de vous en détourner. » Ah, m'écriai-je, vous ne savez pas encore ce que vous pourriez sur moi, si le repentir. Du repentir, interrompit-elle avec l'accent le plus ironique, voilà bien une idée dans votre genre. À cette réponse, à cet air, je repris toute mon indignation et m'avançai vers la porte pour m'en aller. Mais tout à coup je m'arrêtai. Je regardais cette chambre dans laquelle j'avais passé des heures si douces, et je songeais que j'allais en sortir pour n'y plus rentrer jamais. Hélas, lui dis-je alors avec douceur, combien vous avez mal connu la route de votre bonheur. Vous avez rencontré, au milieu de votre carrière, une personne jeune, qui vous aimait de sa première amitié, sentiment presque aussi profond que le premier amour. Une personne singulièrement captivée par le charme de votre esprit et de vos manières, et qui ne concevait pas le moindre doute sur la moralité de votre caractère. Vous le savez, autour de moi j'avais souvent entendu dire du mal de vous. Mais, en vous justifiant toujours, je m'étais plus attachée aux qualités que je vous attribuais que si je n'avais jamais eu besoin de vous défendre. Vous avez brisé ce cœur qui vous était acquis, sans que même une telle dureté fût nécessaire à aucun de vos intérêts. Vous auriez obtenu de moi d'immoler mon bonheur à mon attachement pour vous. Vous m'avez trompée par goût pour la dissimulation, car la vérité eut atteint le même but, et vous avez voulu dérober par la fausseté ce que l'amitié généreuse s'offrait à vous sacrifier. Je souhaite néanmoins, oui, je souhaite du fond du cœur que vous soyez heureuse, mais je vous prédis que vous ne serez plus aimée comme je vous ai prouvé qu'on aime. On ne forme pas deux fois des liaisons telles que la nôtre. Et quelque aimable que vous soyez, vous ne retrouverez pas l'amitié, le dévouement, l'illusion de Delphine. Je vous quitte dans cet instant pour ne plus vous revoir, et c'est moi qui suis émue, moi seule. Ah, n'essayerez-vous donc pas d'adoucir le sentiment que je vais emporter avec moi? Ce talent de feindre dont vous avez si cruellement abusé, vous manque-t-il donc seulement alors qu'il pourrait rendre nos derniers moments moins cruels? Je ne le puis, me dit-elle, je ne le puis. Il faut éloigner de soi les sentiments pénibles et ne point recommencer des liens qui désormais ne seraient que douloureux. Il n'est plus en votre puissance de ne pas troubler mon repos. Adieu donc, c'est du repos que je veux si je dois vivre encore. Sinon, elle s'arrêta, comme si elle avait eu l'idée de me parler. Mais changeant de résolution, « Adieu, Delphine, me dit-elle d'une voix assez précipitée. » Et elle rentra dans son cabinet. Je restai quelque temps à la même place. Mais enfin, honteuse de mon émotion, de cette faiblesse de cœur qui avait entièrement changé nos rôles, et fait de celle qui était mortellement offensée, celle qui était prête à supplier l'autre, je quittai cette maison pour toujours, et je revins, impatiente de vous apprendre ce qui s'était passé. S'il ne se mêlait pas à votre affection pour moi des vertus maternelles, si vous ne m'inspiriez pas ces sentiments qui appartiennent à l'amour filial et que la mort prématurée de mes parents ne m'a permis de connaître que pour vous, j'aurais quelque embarras à vous peindre la douleur que m'a causée ma rupture avec Madame de Vernon. Mais votre cœur n'est point accessible, même à la plus noble des jalousies. Vous avez de l'indulgence pour votre enfant. Vous lui pardonnez cette amitié vive que les premiers goûts de l'esprit et les premiers plaisirs de la société avaient fait naître. Elle existait à côté de l'amour le plus passionné, cette amitié funeste. Elle ne portait donc pas atteinte à la tendresse reconnaissante que je ne puis éprouver que pour vous seul. Maintenant, quel parti prendre? Ma conversation avec Madame de Vernon m'a bien prouvé qu'elle redoutait extrêmement, pour le repos de sa famille, que Léonce ne connût la vérité. Mais que dois-je à Madame de Vernon? Mais quelle puissance sur terre pourrait obtenir de moi que je consentisse une seconde fois à être méconnue de Léonce? Et que parlais-je de puissance? Il n'en est qu'une à craindre, c'est la voix de mon propre cœur. Mais est-il vrai qu'elle me le demande? Non. Il faut aussi que je compte mon sort pour quelque chose, que la bonté m'inspire quelque compassion pour moi-même. J'ai le temps encore de consulter M. Barton, d'avoir sa réponse. La vôtre aussi peut me parvenir. Il faut 14 jours pour que les lettres arrivent à Madrid. Léonce, jusqu'au 25 novembre, attendra, sans me condamner. Ah, ma sœur, que m'écrirez-vous dans le combat qui me déchire? À quel sentiment prêterez-vous votre appui? Lettre 32. Delphine à Mademoiselle d'Albémare. Paris, ce 2 novembre 1790. J'attends impatiemment votre réponse et celle de M. Barton. Je compte les jours et je les redoute. Je consume mes heures dans des réflexions qui me déchirent en se combattant mutuellement. Quelquefois je trouve de la douceur à penser que si l'on n'avait pas excité la jalousie de Léonce, toute autre prévention ne l'eût jamais assez éloigné de moi pour qu'il consentît à devenir l'époux de Mathilde. Et l'instant d'après, je me livre au désespoir, en songeant que le plus simple hasard pouvait tout éclaircir, et que si j'avais eu le courage d'aller vers lui, peut-être encore au dernier moment, un mot, un seul, faisait de la plus misérable des femmes la plus heureuse. Quel sentiment éprouvera-t-il quand il saura mon innocence? Oui, sans doute il la saura. L'on n'exigera pas de moi que je renonce à me justifier auprès de lui. Cependant, quel trouble je vais porter dans ses affections, dans ses devoirs, si je l'instruis positivement de la vérité? Ne vaut-il pas mieux que le temps et ma conduite l'éclairent? Mais si je garde le silence, il m'annonce qu'il me croira coupable. Il croira que, dans le moment même où je paraissais l'aimer, je le trompais. Non, cette pensée est intolérable. Si j'étais mourante, n'obtiendrais-je pas le droit de tout révéler après moi? Hélas, l'aurais-je même alors? Le bonheur des autres ne doit-il pas nous être sacré tant qu'il peut dépendre de notre volonté? Cruelle femme, c'est encore pour vous que j'éprouve ces affreuses incertitudes. C'est votre repos, c'est votre bonheur qui lutte encore dans mon cœur contre un désir inexprimable. Et Mathilde aussi, ne souffrira-t-elle pas de ce que je dirai? Puis-je écrire à Léonce ce qui doit lui faire haïr sa belle-mère et l'éloigner encore plus de sa femme.
Ah, jamais, jamais personne ne s'est trouvé dans une situation où les deux parties à prendre paraissaient tous deux également impossibles.
Enfin, il le faut, je le dois. Attendons les conseils qui peuvent m'éclairer.
Mon voyage près de vous est forcément retardé de quelques jours parce que je ne vais plus avec Madame de Vernon. J'avais remis toutes mes affaires entre les mains d'un homme à elle. Il faut tout séparer après avoir cru que tout était en commun pour la vie. J'ai honte de vous avouer combien je suis faible. Encore ce matin, je suis montée en voiture pour aller chez mon notaire. Mais comme il fallait, pour arriver à sa maison, passer devant la porte de Madame de Vernon, je n'en ai pas eu le courage. J'ai tiré le cordon de ma voiture au milieu de la rue, et j'ai donné l'ordre de retourner chez moi. J'ai voulu ranger mes papiers avant mon départ. Je trouvais partout des lettres et des billets de Madame de Vernon. Il a fallu ôter son portrait de mon salon, lui renvoyer une foule de livres qu'elle m'avait prêtés. C'est beaucoup plus cruel que les adieux au moment de mourir, car les affections qui restent alors répandent encore de la douceur sur les dernières volontés. Mais dans une rupture, tous les détails de la séparation déchirent, et rien de sensible ne s'y mêle et ne fait trouver du plaisir à pleurer. Je n'ai plus personne à consulter sur les circonstances journalières de la vie. Je me sens indécise sur tout. Je pense avec une sorte de plaisir que, par délicatesse pour Madame de Vernon, je m'étais isolée de la plupart des femmes qui me témoignaient de l'amitié. Je ne voulais confier à aucune autre ce que je lui disais. J'étais jalouse de moi pour elle. Au milieu de ces pensées, plus douces mille fois qu'une amie si coupable ne devait les attendre de moi, Madame de Lébancey a trouvé le secret, hier, de me faire parler très amèrement de Madame de Vernon. Elle était arrivée de la campagne exprès pour me questionner. Madame de Vernon l'avait vue et avait su la captiver entièrement, soit par l'empire de son charme, soit que, dans la situation de Madame de Lébancey, l'on ne veuille se brouiller avec personne, et que l'on devienne même très aisément favorable à tous ceux qui vous traitent bien. Je trouvais d'abord mauvais que Madame de Vernon eût confié, sans mon aveu, à Madame de Lébancey mon sentiment pour Léonce. Mais la justification de Madame de Vernon, que me rapporta Madame de Lébancey assez maladroitement, mérita bien plus encore. Elle se fondait entièrement sur les dispositions que Madame de Vernon supposait à Léonce, son éloignement pour les femmes qui ne respectaient pas l'opinion, l'irrésolution de ses projets relativement à moi, le peu de convenance qui existait entre nos manières de penser. Madame de Vernon se représentait enfin, me dit Madame de Lébancey, comme n'ayant fait que conseiller Léonce selon son bonheur et peut-être son penchant. C'était me blesser jusqu'au fond du cœur que se servir d'un tel prétexte. Si quelqu'un avait senti fortement les torts de Madame de Vernon envers moi, peut-être aurais-je adouci moi-même les coups qu'on voulait lui porter. Mais les formes tranchantes de Madame de Lébancey, son parti pris d'avance, les petits mots qu'elle me disait et qui m'annonçaient que Madame de Vernon l'avait prévenue que j'étais très exagérée dans mon ressentiment, tout cet appareil d'impartialité, quand il s'agissait de décider entre la générosité et la perfidie, m'offensa tellement que je perdis, je le crois, toute mesure. Et faisant à Madame de Lébancey avec beaucoup de chaleur le tableau de ma conduite et de celle de Madame de Vernon, je lui déclarai que je ne voulais point écouter ceux qui me parleraient pour elle, et que je la priais seulement de raconter à Madame de Vernon ce que j'avais dit et les propres termes dont je m'étais servi. quand Madame de Libancy fut partie, je sentis que j'avais eu tort. Je ne me repentis ni d'avoir excité le ressentiment de Madame de Vernon, ni d'avoir attaché plus vivement Madame de Libancy à ses intérêts. Il est assez doux de se faire du mal à soi-même en attaquant une personne qui nous fut chère. On aime à briser tous les calculs en se livrant à ce douloureux mouvement. Mais je me repentis d'avoir dénaturé ce que j'éprouvais et de m'être donné des torts de parole quand mes sentiments et mes actions n'en avaient aucun. J'étais aussi, je l'avoue, vivement irritée en apprenant que Madame de Vernon cherchait encore à me nuire, dans le moment même où j'hésitais si je ne sacrifierais pas le bonheur de toute ma vie à son repos. Cependant, que deviendrai-je tant que Léonce me soupçonnera? La solitude et le temps ne feront rien à cette douleur. Elle renaîtra chaque jour, car chaque jour j'essaierai de raisonner avec moi-même pour me prouver que je dois répondre à Léonce. Mais pourquoi donc supposer que ma conscience me le défende? Ah, je l'espère, vous et M. Barton, vous penserez que Léonce aura assez de calme, assez de vertu pour apprendre la vérité sans punir celle qui fut coupable. Ah, s'il sait pardonner, ne puis-je pas tout lui dire? P.S. Vous ne m'avez pas répondu sur l'affaire de M. de Clarimin. Je suis bien sûre que vous sentez comme moi que je dois mettre plus d'importance que jamais à lui faire accepter ma caution. Si par hasard vous ne l'aviez pas encore offerte, ce qui vient de se passer vous inspirera, j'en suis sûre, le désir de vous hâter. Lettre 33. Mademoiselle d'Albémar à Delphine. Montpellier, ce 4 novembre. Ma chère Delphine, mon élève chérie, dans quel monde êtes-vous tombée? Pourquoi faut-il que Madame de Vernon, cette femme perfide que mon pauvre frère détestait avec tant de raison, vous ait captivée par son esprit séducteur? Pourquoi n'ai-je pas su réunir à mon affection pour vous cet art d'être aimable qui pouvait satisfaire votre imagination? Vous n'auriez eu besoin d'aucun autre sentiment, et votre cœur n'eût jamais été trompé. Vous me demandez un conseil sur la conduite que vous devez tenir avec Léonce. Comment oserais-je vous le donner? Je ne pense pas que vous deviez en rien vous sacrifier pour l'indigne Madame de Vernon. Mais quand Léonce saura que vous n'avez jamais cessé de l'aimer, pourra-t-il supporter Mathilde? Pourra-t-il se résoudre à ne pas vous revoir? Aurez-vous la force de le lui défendre? Cependant, faut-il que, pouvant vous justifier, vous vous donniez l'air coupable? Supporterez-vous une telle douleur? Non, l'amitié ne saurait s'arroger le droit de conseiller une action héroïque. Si vous répondez à Léonce, si vous l'instruisez de la vérité, vous ne ferez peut-être rien de vraiment mal, rien que personne n'eût pu se permettre de condamner. Mais si pour mieux assurer son repos domestique, si pour l'éloigner plus sûrement de vous, vous vous taisez, vous aurez surpassé de beaucoup ce que l'on pourrait attendre de la vertu la plus sévère. Lettre 34. Monsieur Barton à Madame d'Albémar. Mondeville, 6 novembre. J'ai été quelques jours, madame, sans pouvoir me déterminer à vous écrire. Ce que je devais vous conseiller me semblait trop pénible pour vous. Cependant, je me suis résolue à vous donner la plus grande preuve de mon estime. En répondant avec une sévère franchise à la généreuse question que vous daignez me faire. Monsieur de Mondeville, indignement trompé sur vos sentiments, à épouser Mademoiselle de Vernon. Il a repoussé le bonheur que j'espérais pour lui. Il a gâté sa vie, mais il faut au moins qu'il respecte ses devoirs. Il lui restera toujours une destinée supportable tant qu'il n'aura pas perdu l'estime de lui-même. Sans pouvoir deviner le secret habilement conduit dont vous avez été la victime, je n'ai jamais cru que vous fussiez capable de tromper. Mais j'ai toujours refusé de m'expliquer avec Léonce sur ce sujet. J'ai reçu une lettre de lui, 2 jours avant la vôtre, dans laquelle il m'apprend qu'il vous a écrit et qu'il vous demande de lui dévoiler ce qu'il commence enfin à entrevoir, les criminelles ruses de Madame de Vernon. Il se contient avec vous, me dit-il, mais il s'exprime dans sa confiance en moi avec une telle fureur que je frémis du parti qu'il prendra quand il saura la conduite de Madame de Vernon envers lui. Il est résolu d'abord de défendre à Madame de Mondeville de voir sa mère, et si elle lui désobéit, il veut se séparer d'elle. Il forme encore 1000 autres projets extravagants de vengeance contre Madame de Vernon. Je ne doute pas qu'il ne renonce à ce qui serait indigne de lui, mais tel que je le connais, je suis sûre qu'il suivra le dessein qu'il m'annonce de forcer Madame de Mondeville à rompre avec sa mère. Quel trouble cependant ne va-t-il pas en résulter? Quelque coupable que soit Madame de Vernon, vous la plaindriez d'être condamnée à ne jamais revoir sa fille. Et si, comme je n'en doute pas, Madame de Mondeville croit de son devoir de s'y refuser, quel scandale que la séparation de Léonce avec sa femme pour une telle cause! C'est vous seule, madame, qui pouvez encore être l'ange sauveur de cette famille, l'ange sauveur de celle même qui vous a cruellement persécutée. Je ne me permettrai pas de vous dicter la conduite que vous devez tenir. J'ai dû seulement vous instruire des dispositions de Léonce. Il est impossible, quand il saura tout, de se flatter de l'apaiser. Il est malheureusement très emporté. Et jamais, il faut en convenir, jamais un homme n'a été offensé à ce point dans son amour et dans son caractère. Jugez vous-même, madame, de ce qu'il importe de cacher à Léonce. Jugez des sacrifices que votre âme généreuse est capable de faire. Je ne vous demande point de me pardonner, car je crois vous honorer par ma sincérité autant que vous méritez de l'être, et mon admiration respectueuse donne beaucoup de force à cette expression. P. Barton. Lettre 35. Réponse de Delphine à M. Barton. Paris, ce 8 novembre. Vous ne savez pas quelle douleur vous m'avez causée. Je croyais pouvoir le détromper. Je croyais toucher au moment de recouvrer toute son estime. Vous m'avez montré mon devoir, le véritable devoir, celui qui a pour but d'épargner des souffrances aux autres. Je l'ai reconnu, je m'y soumets. Je n'écrirai point. Mais souffrez que je le dise, pour la première fois j'ai senti que je m'élevais jusqu'à la vertu. Oui, c'est de la vertu qu'un tel sacrifice, et ce qu'il me coûte mérite le suffrage d'un honnête homme et la pitié du ciel. Il attend ma réponse pour un jour fixe, pour le 25 novembre. Mon silence, dit-il, sera pour lui l'aveu de la perfidie dont on m'avait accusé. Ne pouvez-vous lui écrire que ce silence est un mystère que je ne veux jamais éclaircir, mais qu'il ne doit lui donner aucune interprétation décisive? Ne pouvez-vous pas lui dire au moins que je pars pour le Languedoc d'où je ne sortirai jamais? Est-ce trop demandé, et ne défais-je pas ainsi, faiblesse après faiblesse, l'action que je nommais généreuse? Je vous laisse l'arbitre de ce que vous pouvez dire.
Vous comprenez ce que je souffre, ce que je souffrirai toujours tant qu'il me croira coupable. Si le ciel vous inspire un moyen de me secourir, sans porter atteinte au bonheur des autres, vous le saisirez. J'ose en être sûre. S'il faut me sacrifier, je vous en donne le pouvoir. Je saurai vous en estimer. Je dépose entre vos mains la promesse de m'éloigner, de ne point écrire, de ne rien me permettre enfin pour moi-même, que de vous demander quelquefois si vous avez affaibli dans le cœur de Léonce la juste haine qu'il va de nouveau ressentir contre moi. Lettre 36. Madame d'Artenat à Delphine. Paris, 10 novembre. J'ai passé hier chez vous, ma chère Delphine, mais en vain. Votre porte est toujours fermée. Je suis obligée de partir pour ma terre près de Fontainebleau. Mais je ne veux pas différer à vous demander de m'apprendre les causes d'un événement qui occupe toute la société de Paris. Vous êtes brouillée avec madame de Vernon. Vous ne vous voyez plus. Je crois bien aisément qu'elle a tort et que vous avez raison. Mais pourquoi vous brouillez avec elle? Pourquoi vous brouillez avec personne? Cela peut avoir les plus graves inconvénients. Vous avez découvert qu'elle vous trompait. Il y a longtemps que je m'en serais douté à votre place. Mais c'est précisément parce qu'elle a un caractère adroit et dissimulé qu'il était sage de la ménager. Votre conduite a été le contraire de ce qu'elle devait être. Il fallait ne pas l'aimer avec tant d'aveuglement avant la découverte et ne pas rompre depuis avec tant de véhémence. Madame de Vernon est établie à Paris depuis beaucoup plus longtemps que vous. Elle y a beaucoup plus de relations. Et vous savez qu'on est toujours ici soutenu par ses parents, non parce qu'ils vous aiment, mais parce qu'ils regardent comme un devoir de vous justifier. Il y a si peu de véritable amitié dans le grand monde qu'encore vaut-il mieux compter sur ceux qui se croient obligés à vous défendre que sur ceux qui le font volontairement. Vous allez vous trouver nécessairement mal avec votre famille si vous ne voyez plus madame de Vernon. Car madame de Mondeville, dans cette circonstance, ne se séparera sûrement pas de sa mère. Il faut tâcher de vous raccommoder avec tout cela. Pensez-en ce que j'en pense. Mais soyez avec madame de Vernon dans une bonne mesure, quoique sans fausseté. Les hommes peuvent se brouiller avec qui ils veulent. Un duel brillant répond à tout. Cette magie reste encore au courage. Il a franchi honorablement des liens qu'impose la société. Ces liens sont les plus subtils et cependant les plus difficiles à briser. Une jeune femme sans père ou sans mari, quelque distinguée qu'elle soit, n'a point de force réelle ni de place marquée au milieu du monde. Il faut donc se tirer d'affaire habilement, gouverner les bons sentiments avec encore plus de soin que les mauvais. Renoncer à cette exaltation romanesque qui ne convient qu'à la vie solitaire, et se préserver surtout de ce naturel inconsidéré, la première des grâces en conversation, la plus dangereuse des qualités en fait de conduite. Vous aimez, quoi que vous en puissiez dire, le mouvement et la variété de la société de Paris. Sachez donc vous maintenir dans cette société sans donner prise sur vous à personne. Avant les chagrins que vous avez éprouvés, vous aimiez aussi, et cela devait être, les succès sans exemple que vous obteniez toujours quand on vous voyait et quand on vous entendait. Défiez-vous de ces succès, qu'ils vous rendent d'autant plus prudente, car en excitant l'envie, ils vous obligent à craindre madame de Vernon. Je pourrais, moi, me brouiller avec elle. Nous sommes à force égale, vieille et oubliée que je suis. Mais vous, la plus belle, la plus jeune, la plus aimable des femmes,
on croira tout ce que Madame de Vernon dira contre vous. Et, pour ne rien vous cacher, on le croit déjà. » J'avais commencé ma lettre avec l'intention de vous laisser ignorer ce que Madame de Vernon allègue en sa faveur. Mais je réfléchis qu'il faut que vous connaissiez tous les motifs qui doivent diriger votre conduite. Elle prétend que vous l'aviez chargée d'engager Léonce à vous épouser, que depuis l'esclandre du duel de M. de Serbelane, il ne l'a pas voulu, et que vous ne lui avez jamais pardonné son infructueuse négociation. Elle affirme que vous avez dit à tout le monde un mal abominable d'elle et que vous lui avez reproché de prétendus services avec indélicatesse et amertume. Jugez combien les ingrats et ceux qui auraient envie de l'être trouvent mauvais qu'on se souvienne des services qu'on a rendus. Elle assure enfin que c'est elle qui n'a plus voulu vous voir parce que vous ne veniez dans sa maison que pour vous faire aimer du mari de sa fille. Et cette dernière accusation lui rallie toutes les dévotes. Vous voyez qu'elle sait se concilier les bons et les méchants. Et de plus, cette nombreuse classe d'indifférents paisibles, qui, ayant beaucoup plus entendu parler de Madame d'Albémare que de Madame de Vernon, croit qu'il est de leur dignité de gens médiocres de blâmer celle qui a le plus d'éclat. Ne vous exagérez pas, cependant, l'effet des discours de Madame de Vernon. Nous sommes en état de nous en défendre. Mais il est indispensable que vous commenciez par vous raccommoder avec elle. Et je vous réponds qu'elle ne demanderait pas mieux. Car dans toutes ces querelles, en présence du tribunal de l'opinion, chacun a peur de l'autre. Retournez à ses soupers. Cessez de lui faire aucun reproche. N'en dites plus aucun mal. Et si elle continue à chercher à vous nuire, je me charge, moi, de lui jouer quelques tours de vieille guerre. Je connais les ruses de Madame de Vernon. Je ne m'en sers pas, mais j'en sais assez pour les dévoiler. Et elle vous ménagera quand elle apprendra que vos qualités vives et brillantes sont sous la protection de ma prudence et de mon sang-froid. Adieu, ma chère Delphine. Suivez mes conseils et tout ira bien. Lettre 37. Delphine à Madame d'Artenat. Paris, 14 novembre. Je suis touchée, madame, de l'intérêt que vous voulez bien me témoigner. Mais je ne puis suivre le conseil que vous avez la bonté de me donner. J'ai aimé tendrement Madame de Vernon. Comment me serait-il possible de renouer avec elle par des motifs tirés de mon intérêt personnel? Je suis bien peu capable de cette conduite, même avec les indifférents. Mais j'aurais une répugnance invincible à dégrader les sentiments que j'ai éprouvés en les soumettant à des calculs. Comment pourrais-je revoir, avec calme, dans les rapports communs du monde, une personne qui a été l'objet de ma plus tendre amitié et qui s'est montrée ma plus cruelle ennemie? Non, la société ne vaut pas ce qu'il en coûterait pour torturer à ce point son caractère naturel. De tels efforts feraient plus que contraindre les mouvements vrais du cœur. Ils finiraient par le dépraver. Je suis singulièrement blessée, je l'avoue, des discours que Madame de Vernon tient sur moi. Mais c'est précisément parce que ces discours sont écoutés que je ne veux pas me rapprocher d'elle. J'aurais peut-être été assez faible pour le désirer s'il était arrivé ce qui, je crois, était juste, si l'on eût blâmé qu'elle seule. Mais puisqu'elle m'accuse et qu'on la soutient, puisque j'ai quelque chose encore à craindre d'elle, je ne la reverrai jamais. C'est auprès de vous, madame, que je voudrais me justifier. Madame de Vernon m'a reproché d'avoir dit du mal d'elle, et vous me conseillez de la ménager. Tous ces mots me paraissent bien étranges dans un sentiment de la nature de celui que j'avais pour Madame de Vernon. Une seule fois, j'ai parlé d'elle avec amertume, en m'adressant à une personne qu'il aime beaucoup, et que je rattachais à elle au lieu de l'en détacher, par la vivacité même qui me donnait l'air d'avoir tort. « Vous n'aimez pas Madame de Vernon, et je m'interdis de vous en parler, à vous que je désirerais si vivement éclairer sur les absurdes calomnies dont je suis l'objet. » J'ai reproché à Madame de Vernon les services que je lui ai rendus. Et tous les services du monde, dit-elle, sont effacés par les reproches. Vous sentez aisément, madame, combien il serait facile de se dégager ainsi de la reconnaissance. On blesserait le cœur d'une personne qui se serait conduite généreusement envers nous, elle s'en plaindrait, et l'on dirait ensuite que toutes ses actions sont effacées par ses paroles. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit entre Madame de Vernon et moi. Si je lui ai reproché son ingratitude, c'est celle du cœur dont je l'ai accusée, et c'est en confondant ensemble, en plaçant sur la même ligne, le jour où je lui ai serré la main avec tendresse, et celui où j'aurais engagé la moitié de ma fortune pour elle, que j'ai eu le droit de lui rappeler tout ce qui lui a prouvé que je l'aimais. Je rougis jusqu'au fond de l'âme des autres torts qu'elle m'impute. Mais si je les repoussais, ce serait alors que je serais vraiment blâmable. Je nuirais à Madame de Vernon, et jusqu'à présent, vous voyez que j'ai trouvé le secret de ne nuire qu'à moi-même. Je m'en applaudis. Je ne veux pas ménager Madame de Vernon par les motifs que vous me présentez. Je ne veux point la désarmer, mais je craindrais encore de lui faire du mal. Hélas, elle apprendra bientôt à quel point je les crains. Mes plaintes contre elle, quand je m'en permets, ont tout un caractère de sensibilité romanesque qui, vous le savez, n'associera pas les salons de Paris à mon ressentiment. Je ne suis pas indifférente au blâme de la société, mais je ne ferai pour m'y soustraire que ce que je ferai pour la satisfaction de ma conscience. La vérité doit nous valoir le suffrage des autres ou nous apprendre à nous en passer. Je mettrais peut-être plus de prix à l'opinion si j'étais unie à la destinée d'un homme qui me fût cher. Mais condamnée à vivre seule, à supporter seule mon sort, je n'ai point d'intérêt à me défendre. Qui jouirait de mon triomphe si je le remportais? Et n'est-il pas assez sage de ne point lutter contre la méchanceté des hommes quand l'on a d'autres biens à espérer de ses efforts que quelques douleurs de moins? Cette indifférence sur ce qu'on peut dire de moi m'est beaucoup plus facile maintenant que je suis résolue à quitter Paris. Je vais m'enfermer pour toujours dans la retraite où vit ma belle-sœur. J'y emporterai le souvenir le plus tendre de vos bontés et le regret de n'en avoir pas joui plus longtemps. Delphine d'Albemarle.